Edencast.fr vous présente un nouvel épisode de son podcast.
Bonjour à tous et bienvenue sur Edencast.fr.
Animation, Meb. Réalisation, Kevin.
Je suis ravi de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence, mais de semaines studieuses, car il va être question d'accessibilité aujourd'hui avec une surprise. Alors je vous emmène une dernière fois à la découverte de Vienna Symphonique.
Pour vous tenir au courant de l'actualité du site, n'hésitez pas à vous abonner par mail à notre compte Twitter, sur notre page Facebook ou encore nos différents flux de syndication.
Alors, vous avez pu lire, comme moi, les commentaires qui ont fusé sur Edencast concernant donc Vienna Symphonique en disant que c'était pas accessible, qu'il y avait un autre plugin qui était tout aussi intéressant qui est East-West. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Qu'il fallait des scripts ou des scripts existaient? J'aimerais répondre, en fait, tout simplement en disant que on ne peut pas comparer Vienna Symphonique et East-West. C'est absolument pas possible d'entendre, de lire des trucs pareils parce que East-West et Vienna Symphonique n'ont pas du tout les mêmes méthodes d'enregistrement et de préparation de leur banque de sons. Je m'explique. East-West a pour objectif finalement d'échantillonner des instruments un petit peu partout dans le monde avec différents orchestres, etc., etc. Le résultat, c'est que finalement, une fois qu'on a créé une séquence avec tous ces échantillons, eh bien, on a l'impression que, bah tiens, c'est marrant, le violoncelle, on a l'impression qu'il a été enregistré ailleurs, que le violon alto, bah tiens, c'est bizarre, il a un son, on dirait qu'il a été aussi enregistré ailleurs. Donc, on se retrouve avec une séquence qui n'a pas une homogénéité au niveau sonore, avec des problèmes de phase, etc., etc. Donc, ça pose quand même un problème, parce que du coup, on a une séquence qui n'est pas du tout uniforme. Bon, ça, c'est un peu embêtant. Il y a la qualité aussi, hein, la qualité des échantillons. J'ai pu entendre des échantillons d'East-West, mais c'est vrai que quand on écoute ceux de Vienna derrière, bah, c'est sûr que ça fait aucun doute, hein. On a forcément envie plutôt de travailler avec Vienna. Ils ont des chambres sourdes dans lesquelles chaque musicien ou chaque groupe de musiciens peut s'enfermer et donc être enregistré, etc., etc. Avec des micros qui sont placés à des points fixes, en l'occurrence dans les murs, ce qui permet finalement, prise après prise, d'avoir exactement les mêmes repères. Et ça, c'est très important parce que quand on sait que pour arriver à faire une banque de sons complète d'un orchestre avec toutes ses familles d'instruments, etc., il aura fallu pratiquement plus de 3 ans. Hein. Donc c'est colossal. Donc si on s'était contenté de mettre des micros sur perche, forcément au bout d'un moment on aurait des déphasages aussi et on aurait exactement le même problème qu'avec East-West. Là, l'avantage, c'est que les micros ne bougent pas, il y a des marques au sol pour les musiciens, etc. Tout est prévu pour que ça soit reproductible dans le temps. Et ça, moi, je trouve qu'ils ont apporté un soin à la façon de faire leur prise de son qui est absolument pas comparable à East-West. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ça nous fait des banques de sons qui sont absolument colossales en termes d'espace disque. Si je prends l'exemple de Symphonic Cube qui m'a servi de base de travail pour l'accessibilité, et ben c'est 500 gigas. La collection complète, c'est pas loin de 900 gigas, je crois. On frise le tera. Je crois que la deuxième réflexion, ça a été de dire sur internet, toujours sur Edencast, ça a été de dire oui, mais de toute façon, il faut des scripts. J'ai vraiment cherché, comme tout le monde, hein, je pense, et ben j'ai rien trouvé, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit, bon, en France, il n'y a rien de toute façon, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui scriptent pour des non-voyants, etc. Et ben il n'y a rien du tout, hein, il n'y a absolument que dalle. Donc, gros problème. Et finalement, la solution est trouvée. Hein. Je préfère pas faire durer le suspense. Mais c'est bon, hein, ça fonctionne. Je vais pas m'étendre sur la méthode employée pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Et pour ceux qui seraient intéressés par Vienna, eh bien, qu'ils me contactent par Edencast et je pourrai leur faire parvenir les fichiers qui permettront l'utilisation de Vienna avec VoiceOver sous Pro Tools. Je précise bien sous Pro Tools, hein, parce que j'ai pas exploré d'autres séquenceurs. Je ne sais pas du tout comment ça se comporte. Voilà, donc ça c'était la deuxième réflexion. Voilà, enfin je voulais quand même répondre parce que bon, c'est toujours un peu embêtant d'avoir comme ça des gens qui vous font un message. Je pense que la personne se reconnaîtra, mais je pense pas qu'elle écoute en fait. Donc même si elle écoute, mais je pense qu'elle se reconnaîtra qu'il nous a envoyé un message avec plein de banques de sons, enfin de noms de banques de sons, avec l'impression qu'ils les avaient tous tout utilisés et que on avait l'impression qu'il les utilisait, qu'il avait les scripts. Eh bien, s'il les a, mais c'est vraiment formidable, mais qu'il nous fasse partager tout ça parce que, bah voilà, parce qu'on est tous très demandeurs. Donc, voilà, s'il nous entend, il n'y a pas de souci, on est prêt à éventuellement découvrir tout ça, hein, vraiment, qui n'hésite pas. Aujourd'hui, ce que je veux vous faire partager, eh bien, c'est ces questions d'accessibilité. Maintenant, je vais rentrer dans le, pas dans le vif du sujet, mais presque. Via Symfony, comment ça se passe? Eh bien, en fait, sur le site de l'éditeur, eh bien, on va choisir ce que l'on veut acheter. Eh oui, ça passe automatiquement par la case achat parce que, encore une fois, il n'y a pas de version de démonstration pour Vienna Symphonique et c'est bien, bien, bien dommage. Donc, moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir un ami qui a pu me prêter le Symphonic Cube exactement, puis qui s'en sépare, donc du coup, qui m'appartient désormais puisque l'accessibilité fonctionne. Bon, première étape. On va sur le site de l'éditeur donc. On choisit l'instrument que l'on veut. Alors ça peut être, je donne des noms comme ça au hasard, ça peut être des solo string 1, solo string 2, chamber string 1, chamber string 2. Une fois qu'on a choisi, par exemple, on va dire le solo string 1, on valide là-dessus, bon voilà, on fait son paiement hein, en ligne. Et puis après, on reçoit un mail avec un code d'activation, code d'activation qui est unique. Ce code d'activation, il va falloir lancer une application qui s'appelle E-License Control Center, qui est propre non pas à Vienna Symphonique, mais qui est propre au système de clés physiques. Vous savez, ces petites clés USB qui renferment des licences de logiciels. C'est exactement le même système de clés que celle qu'on utilise pour Cubase, etc. Ça vaut une quarantaine d'euros, c'est pas la mer à boire. Alors, il y a des notions très importantes à connaître là-dessus parce que une fois qu'on a récupéré sa clé de licence, eh bien, elle s'installe bien sûr sur la clé. Et puis, à ce moment-là, on retourne sur le site de Vienna Symphonique pour télécharger la banque de sons, tout simplement. Si vous perdez votre clé USB, eh bien, la licence est perdue, évidemment, et Vienna Symphonique ne délivre pas de nouvelle licence, même si vous justifiez de l'achat de votre banque de sons, eh bien, Vienna Symphonique ne redistribue pas une nouvelle clé de licence. Les licences, par définition, évidemment, on ne peut que les transférer d'une clé à une autre. Tout ça pour dire que attention, attention aux clés. Il n'y a pas de service iCloud pour récupérer ces clés. Hein. Ça, c'est pas possible. Il y a un cas où c'est jouable. Si vous endommagez votre clé, ça peut arriver. Je sais pas moi, tout crame, votre clé, vous n'arrivez plus à y accéder. Alors ça, c'est le seul cas où vous la renvoyez. Et là, les gars de chez e-licenseur. C'est même pas chez Vienna qu'il faut la renvoyer, c'est carrément chez les gens qui gèrent ce genre de clés USB là, de licence. Eh bien, ils ont des machines chez eux pour vérifier ce que vous aviez. Ils font une demande à Vienna et à ce moment-là, on vous remet vos clés de licence sur une clé toute neuve. C'est le seul cas vraiment où on peut éventuellement s'en sortir. Parce que quand ça arrive, eh ben, on est bien embêté quand même. Hein. Alors, une fois qu'on a activé sa licence, etc., eh bien, on va découvrir que Vienna Symphonique a un moteur de lecture qui s'appelle Vienna Instrument, qui lui-même est rattaché à un autre logiciel qui s'appelle Vienna Ensemble. Alors, Vienna Ensemble, C'est un logiciel qui est capable de travailler sur des multipostes. Pourquoi des multipostes? Parce que à l'époque de Vienna Symphonique, quand ça a commencé à exister dans les années 2000, les processeurs étaient ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Et donc, ils avaient déjà imaginé l'idée qu'on puisse répartir ces banques de sons sur différents ordinateurs, ce qui permettait à Vienna Ensemble de communiquer, de faire communiquer tout ce petit monde et de décharger le processeur de l'ordinateur sur lequel se trouve le séquenceur, entre autres. Vienna Ensemble, ou Vienna Instruments, c'est pareil, il y a trois modes. C'est ça qu'il faut arriver maintenant à bien comprendre, c'est qu'il y a trois modes. Il y a le mode preset, donc ça c'est les sons les uns après les autres, on choisit son son, on fait sa séquence et puis on passe à un autre son, etc. Après, vous avez le mode patch. Le mode patch, eh ben, c'est un ensemble de sons. Et puis, on a le mode matrix ou matrice. Alors, le mode matrix, en fait, c'est le mode avancé. C'est un mode qui va permettre de choisir différents jeux. Par exemple, j'ai un violon, j'ai envie d'indiquer au logiciel que si je joue très très vite, eh bien, je vais déclencher tel effet de jeu, que si j'appuie sur tel contrôleur MIDI, eh bien, ça me fait un portamento. Ça, c'est des fonctions avancées du logiciel. Alors, honnêtement, il n'y a peut-être que 2% des utilisateurs qui utilisent le mode Matrix. Donc autant vous dire que je me suis pas intéressé à ça. Et puis de toute façon, ça n'est pas accessible. Et ça, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est complètement graphique. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le mode matrice, c'est un carré à l'écran. Un carré dans lequel il y aurait, ou il y a plutôt, en abscisse et en ordonnée, vous avez trois petits carrés à l'intérieur. Donc ça nous fait 9 petits carrés qui correspondent à 9 paramètres possible qu'on va choisir de faire communiquer en abscisse et en ordonnée. La chose importante à dire également, c'est que Vienna Symphonique fonctionne avec la plupart des séquenceurs. Dans l'exemple d'aujourd'hui, c'est Pro Tools qui est à l'honneur et les démonstrations d'accessibilité vont être faites avec Pro Tools 11, la dernière version qui est en 64 bits. À cause de Maverick. Et d'ailleurs, à ce propos, juste une petite parenthèse pour dire que Avid, qui est le développeur du logiciel Pro Tools, a réécrit intégralement le logiciel qui était en 32 bits avant, donc il a fallu quasiment tout réécrire. Et ils ont fait un sacré boulot. Franchement, il y a encore des bugs parce que c'est la réécriture qui fait ça, mais ça va être c'est corrigé régulièrement. Un mot sur Pro Tools et VoiceOver. C'est accessible, allez, je vais dire, c'est dur de chiffrer comme ça, mais à 80, 85, 90%. C'est déjà énorme. Parce que tout ce qui est graphique, de toute façon, on ne pourra pas y accéder. Tout ce qui est vue-mètre, on n'y accédera pas. Et encore, il y a des graphiques, des vue-mètres, on a accès aux valeurs. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Il faut jouer de l'interaction avec VoiceOver, beaucoup. Mais quand même, ça vaut le coup. Ça vaut d'autant plus le coup lorsqu'on utilise des périphériques externes pour contrôler Pro Tools. Je pense notamment à la console numérique Euphonics qui va permettre d'armer les pistes, d'accéder au panoramique, d'accéder aux plugins. Alors, l'inconvénient de ça, c'est quand même que, eh bien, il n'y a pas de retour sonore de VoiceOver. Donc, vous avez intérêt de savoir où vous appuyez, parce que sinon, bah, vous n'avez aucun contrôle, aucun retour. Le retour de VoiceOver, on ne l'a qu'avec le clavier AZERTY. L'environnement dans lequel je travaille, parce que je suis obligé de décrire, parce que il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc Pro Tools, bien sûr, Pro Tools 11, Vienna Symphonique, et puis VoiceOver, je le dis, avec un iMac. En face de moi, j'ai un clavier maître qui va me permettre donc d'attaquer les sons de Vienna Symphonique. Première chose à faire, tout d'abord, avant toute chose, eh bien, c'est d'aller dans Pro Tools, parce que je vais vous montrer un petit peu, même si ce n'est pas un podcast consacré à Pro Tools, eh bien, première chose à faire, c'est d'aller créer une piste d'instrument dans Pro Tools. Alors, je vais vous montrer la fenêtre, la barre des menus de Pro Tools, et vous allez voir que, eh bien, on y accède très très facilement en faisant VOM.
Barre des menus.
Apple.
Voilà, donc on a bien notre menu Apple.
Protol. Fichier. Édition. Afficher. Piste. Clip. Événement. Audio suite. Options. Configuration. Fenêtre. Marketplace. Aide. Aide.
Voilà. Donc ça, c'était en horizontal. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le menu piste, hein, parce que je ne vais pas faire le tour de Pro Tools. Ça fera peut-être l'objet d'une série sur Pro Tools pour ceux que ça peut intéresser. Alors, je vais me rendre dans le menu piste.
Piste.
Voilà. Et je vais dérouler le menu en vertical.
Vous êtes actuellement sur menu. Pour choisir cette commande de menu, appuyez sur contre. Piste. Nouvelle.
Point de suspension.
Nouvelle pour créer une
Estompe.
nouvelle
Groupé.
piste.
Point de suspension.
Dupliquer. Séparer en mono. Désactiver. Estompe. Supprimer. Mettre les insets en bypass. Muter les départs. Écrire les propriétés MIDI en temps réel. Monitoring d'entrée uniquement. Hop. Défiler jusqu'à la piste.
Point de suspension.
Effacer tous les indicateurs d'écrêtage. Créer une piste de métronome.
Voilà. Ça se termine par créer une piste de métronome. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller créer une piste instrument.
Nouvelle.
Point de suspension.
Commande Maj N.
Alors bien sûr, on peut effectivement faire ce raccourci. Une fois le raccourci exécuté, on arrive dans une fenêtre toute simple où l'on choisit le nombre de pistes, le type de piste, si c'est une piste audio, une piste instrument, une piste MIDI, une piste métronome. Et puis ensuite, on choisit, eh bien, si c'est en mono ou en stéréo. Voilà, une fois que les pistes ou la piste sont créées, eh bien, on retombe automatiquement dans la fenêtre de mixage ou bien dans la fenêtre d'édition, c'est selon, puisqu'avec Pro Tools, il y a toujours une seule fenêtre en avant-plan. Soit la fenêtre d'édition, soit la fenêtre de mixage. Une fois que je me suis positionné sur ma piste instrument, eh bien, je vais interagir avec.
Interagir avec Instant Instrument Track.
20 éléments.
Mic pré.
Voilà, et on tombe dans une nouvelle fenêtre, c'est rien de plus simple.
Insert.
Insert, ça c'est un bouton qui va nous intéresser. Donc là, il va falloir interagir encore sur le bouton insert.
Interagir avec Insert.
Et
Affecting
là,
View.
on tombe sur encore une autre petite fenêtre qui va nous permettre de choisir les slots d'insertion.
Une assignée, loin.
On va prendre le slot 1. Donc c'est l'insert A. Je fais un coup de VO espace dessus.
Appuyer. Une assignée, loin.
Alors il est une assignée, donc il n'est pas assigné, on va le faire. Une fois qu'on a validé sur ce bouton, eh bien on va pouvoir choisir le type d'instruments que l'on veut affecter. En l'occurrence, ici, ce sera donc Vienna Instruments. Et je vous montre maintenant la fenêtre dans laquelle eh bien, on peut choisir sa banque de sons.
Bouton de fermeture.
Estompé. Piste.
Texte.
Pré-réglage. Fixpi settings comme un peu auto.
Texte.
Instinct. A.
Alors, Inst 1, c'est donc le nom de la piste sur laquelle je suis.
A.
A, c'est la lettre qui désigne l'insertion.
Plus petit que valeur d'usine, plus grand que.
Alors, plus petit que valeur d'usine, plus grand que, en fait, c'est juste, on enlève les plus petits et plus grand que, c'est valeur d'usine. Et à l'origine, quand on installe Vienna Instruments, ou Vienna Ensemble, c'est la même chose, quand on lance pour la première fois Vienna Instruments dans Pro Tools, eh bien, on se retrouve sur ce fameux bouton. Et puis, bah, en fait, quand on valide avec VO espace, eh bien, il ne se passe absolument rien. Et on ne peut pas du tout accéder à aucune banque de sons de Vienna. Et c'était ça le drame au début. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur valeur d'usine?
Menu.
19 éléments.
19
gauche.
éléments. Déjà, c'est rassurant. Donc là, on a une arborescence avec les flèches.
01, solo string.
Voilà, première catégorie, 01.
01, solo string.
Solo string.
02, chamber string. 03, orchestral string. 04, appassionata string. 05, Vienna dimension string. 06, art. 07, woodwind. 08, spécial woodwind. 09, saxophone. 10, recorder. 11, brass. 12, spécial brass. 13, Vienna dimension brass. 14, Vienna impérial. 15, spécial keyboard. 16, percussion. 17, élément. 18, Vienna schwarp.
Sous-menu.
Vienna. Alors, ça, c'est les voix. C'est simplement les chœurs. Et on retombe.
Coche.
Plus petit que valeur d'usine, plus grand que.
Voilà, et c'est les valeurs d'usine qui sont cochées par défaut. Ce que je ne vous ai pas montré, alors on va retourner.
01, solo string,
sous-menu.
Voilà, il y a un sous-menu. Il y a un sous-menu. Et si on se décale avec
vous
la flèche de droite, eh bien, voici ce qu'on obtient.
01, solo string,
sous-menu.
8 éléments, basse les solos, level 1. Basse les solos, level 1.
Basse solo, level 1.
Basse les solos, level 2. Cello solo, level 1.
Violoncelle, mais tout en solo.
Cello solo, viola solo, level 1. Viola solo, level 2. Violin solo, level 2. Violin solo, level 1.
Violin voilà. Solo, level. Donc moi j'ai respecté l'architecture en fait de l'éditeur.
Menu.
Donc là on a donc
01.
Les violons en premier.
02. Chamber string.
Les violons, enfin les orchestres de chambre en fait. Donc en deuxième catégorie, et pareil, je me décale à droite.
02, chamber string, bassi chambé, level 1.
Basse chamber.
Bassi chambé, level 2. Celli chambé, level 1. Celli chambé, level 2. Chamber string. Viola chambé, level 1.
Alors c'est enfantin parce que du coup, eh bien, on se positionne simplement sur le son que l'on désire et on fait VO espace pour charger en fait le son. Alors on va prendre un. Allez, un exemple, parce qu'il en faut un.
14.
On va retourner, tiens, sur 08, les harpes. On avait commencé 08, la série avec le son 05, des harpes.
06, harpe, 06, harpie, level 1.
Harpe 1, level 1.
Harpie, level 2.
Harpe 1, level 2.
Harpe 2, level 1. Harpe 2, level 2.
Voilà, donc bah, j'ai quatre types de sons de harpe. Alors, on va prendre
harpie,
le premier
1.
Son de harpe. Et je fais donc VO. Espace.
Fermeture du menu, harpie, level 1. Vous êtes actuellement sur boîte combo. Pour choisir cette commande de menu, appuyez sur CTRL, option, espace. Vienna ensemble à une nouvelle fenêtre.
Voilà, ça c'est tout le processus.
Vous êtes actuellement sur inconnu. Protol.
Alors voyez, vous êtes
plugin.
Actuellement sur inconnu. En fait, c'est simplement que VoiceOver, par définition, quand il est sur la fenêtre de Vienna symphonique, eh bien pour lui, c'est une fenêtre inconnue. Et donc, il faut rebasculer sur la fenêtre de Pro Tools, qui est la seule qui nous permet de se balader dans les sons. Voilà l'explication de la non-accessibilité de Vienna symphonique. Et donc, grâce à Pro Tools, grâce à de la bidouille, eh bien ça marche très très bien. Et la preuve, maintenant, je vais vous faire entendre le son de harpe. Voilà, un truc tout bête, tout simple. Bon, vraiment, il n'y a rien de préparé, c'est tout improvisé. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de vous jouer des trucs, là, dans ce cadre-là. C'est plus de vous montrer l'utilisation du clavier. Alors voilà, on entend tout à fait, bien sûr, les attaques, par exemple. Là, je suis vraiment... Là, au niveau de la vélocité, on entend bien. Alors, j'ai aussi un accessoire. Tiens, j'en parle maintenant. C'est un ruban MIDI, un contrôleur MIDI, mais sous forme de ruban, qui fait à peu près 50 cm de long. Et c'est un ruban sur lequel on pose son doigt et qui est capable d'agir et de contrôler deux types de contrôleurs. Alors, soit un contrôleur qui est paramétrable au glisser. Donc, si on glisse son doigt de droite à gauche ou de gauche à droite, eh bien, on peut contrôler la vélocité, par exemple, hein, c'est selon. Ou bien à la pression, c'est-à-dire que si j'appuie sur le ruban, n'importe où sur le ruban, eh bien, je peux influer sur un contrôleur MIDI. Alors, dans le cas de la harpe, par exemple, je n'appuie pas. Si j'appuie sur le ruban, je relâche. Alors ça dépend bien sûr de chaque son que l'on choisit dans la banque. Donc ça, c'est un accessoire intéressant. On le verra peut-être tout à l'heure avec les violoncelles où on peut déclencher un portamento. C'est super intéressant parce que quand on joue, eh bien, il suffit d'appuyer sur le ruban et on déclenche un portamento, etc. Bon, ça, c'était un exemple. Alors, si j'appuie sur le dernier si complètement à droite du clavier 88 notes, eh bien, j'ai accès à des effets de jeu du harpiste. Alors, appuyons sur le si bémol. Bon, bien sûr, il ne se passe rien puisque c'est un contrôleur MIDI. Et si je veux revenir sur un jeu complètement normal, eh bien je rappuie sur le La bémol, le dernier La de mon clavier. Et voilà. Alors bien sûr, on peut reproduire la même chose avec un autre son pour une nouvelle petite démonstration. Donc je vais revenir sur ma liste de sons.
Menu.
Voilà, alors on va prendre, tiens, ce que je vous disais tout à l'heure. On va prendre
02 chamber string,
voilà. 0
bassi chamb, celli chamb, level 2, celli chamb, level 1.
On va prendre le violon
du menu, celli chamb, level
1. On va prendre le violoncelle.
Viens ensemble à une.
Voilà ce que ça donne avec le violoncelle. Alors, ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est cette histoire de portamento. Donc, si par exemple, voilà, je vais appuyer. Alors, bien sûr, c'est là, je laisse mon doigt appuyer volontairement, mais si par exemple, on veut faire, je sais pas, moi. Alors c'est très. Alors ce qui est bien aussi, c'est que les instruments sont très très réactifs à la vélocité. Bref. Voilà. C'est juste pour montrer un petit peu la puissance de Vienna, mais on n'a pas fait le tour, hein, parce que vraiment il y a des tas de trucs comme par exemple au niveau des percussions, c'est pas mal aussi. Alors là par exemple j'ai choisi les timbales d'orchestre et on écoute. Voilà, par exemple, là, ça, c'est une rythmique comme ça que j'improvise. Alors, mais là, l'intérêt aussi, c'est de se rendre compte que on peut faire des variations assez intéressantes. Il y a également des touches d'accès rapide au niveau du clavier maître qui nous permettent d'avoir différents jeux. Si j'appuie sur le premier do dièse, avec la différence do dièse. En ré, on a forcément autre chose. Alors l'intérêt de ça, c'est qu'il faut arriver à varier. Le plus dur, c'est d'arriver à avoir un jeu le plus réaliste possible, hein. Par exemple. Voilà un petit peu pour les timbales. Alors bien sûr, il y a encore d'autres percussions. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah, après, la méthode est toujours la même, hein. On va sur sa fenêtre de Pro Tools, changer le son, on choisit et en avant. Donc vous voyez, c'est pas très très compliqué. Le but ici est bien sûr de montrer que c'est tout à fait abordable. Voici un instrument que j'aime bien, moi, personnellement, c'est le vibraphone. Et alors, le vibraphone, il a été fait de telle façon que, bien sûr, on a toute la tessiture, mais en plus, on a le système qui permet d'avoir un son de vibraphone. Eh bien, on a la possibilité d'avoir, donc, sans vibration, en appuyant sur le do bécard tout en bas du clavier, ce qui nous donne ceci. Et si on monte d'un demi-ton, donc on va se mettre le do dièse. Puis bien sûr, on a toujours une réponse parfaite à la vélocité. Et puis la deuxième vitesse. Première. Deuxième. Voilà. Et donc du coup, bah c'est voilà, on respecte complètement l'instrument. Voilà. Alors, tout ça, bien sûr, c'est à découvrir dans la banque de sons de Vienna Symphonique et avec, bien sûr, la possibilité en temps réel d'avoir tous les jeux expressifs de chaque instrument sur le dernier octave. Du clavier maître ou bien le premier octave. Tout ça dépend comment c'est organisé, puis tout dépend de la tessiture de l'instrument, hein, bien sûr. Pour finir, eh bien, j'ai envie de vous faire entendre les orchestra string. Donc, c'est un ensemble de violons avec un peu tout dedans, les violoncelles, les violons alto, etc. Et pourquoi? Parce qu'il y a différents jeux qui sont accessibles rapidement. Voilà, par exemple, vous avez juste l'attaque comme ça. Ça, c'est une manière de jouer et on peut changer pour ensuite arriver. Ok, ensuite, voilà, ça c'est des notes beaucoup plus longues. Alors, c'est après le trémolo qui est sympa aussi, hein. Par exemple. Voilà, alors ça c'est pour les violons, les orchestres. Alors donc on peut simplement plaquer des accords et ça fonctionne, hein. Et la tessiture est bien respectée aussi. Alors bien sûr, il y aurait énormément à écouter, énormément de choses à dire sur Vienna symphonique, mais malheureusement, bon, on n'a pas non plus une éternité pour expliquer tout ça. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'avec ce système d'accessibilité, eh bien, on peut construire une session avec différentes pistes, différents instruments. Donc c'est complètement accessible. Ce qui est intéressant aussi avec Vienna Symphonique, c'est qu'on n'est pas obligé, bien sûr, d'acheter tout d'un coup, évidemment. Tout est modulable. Les banques de sons sont proposées en deux formats la plupart du temps. Au format standard et au format ce qu'ils appellent extended, ou la version complète, la version étendue. La différence qu'il y a entre la standard et la version étendue, c'est que dans la version étendue, on a beaucoup plus d'articulation et donc plus de possibilités d'avoir un jeu réaliste avec telle ou telle banque de son. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Reste le problème pour ceux qui veulent se lancer dans Vienna de bien connaître le séquenceur. Voilà, c'est le seul hic aujourd'hui pour ceux qui veulent se lancer, c'est d'avoir un séquenceur qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. J'espère pouvoir vous préparer une découverte de Pro Tools aussi, pas à pas. Je ne sais pas quand, mais j'espère pouvoir le faire, parce que c'est pareil, ça prend énormément de temps.
Vous avez rédigé un article ou réalisé un podcast et souhaitez le publier sur edencast.fr? Rien de plus simple. Cliquez sur Participer dans le menu principal.
Je vous ai parlé d'une surprise au début du podcast, en introduction. Eh bien, cette surprise, ce sont deux surprises. Dans les épisodes précédents, je vous ai fait entendre des morceaux comme ça, avec plein de sons et tout. Et puis forcément, pas des morceaux connus. Et puis là, j'ai une œuvre classique qui devrait mettre tout le monde d'accord. Eh bien, écoutons plutôt. Eh oui, il s'agit bien du boléro de Ravel, de ce bon vieux Maurice. Pourquoi ce boléro? Eh bien, parce que c'est une œuvre classique mondialement connue, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas très intéressante sur le plan instrumental. Et on retrouve ici l'ensemble de tous les instruments de Vienna symphonique qui ont servi à la retranscription de la partition de ce fameux boléro. La deuxième surprise, eh bien, c'est simplement une réverb sous forme de logiciel, sous forme de plugin, développée exclusivement par Vienna Symphonique pour sa librairie de sons, une réverbe qui permet la spatialisation de l'ensemble des instruments comme si on se trouvait dans un auditorium. Cette réverbe ou ce plugin a pour nom Vienna Mir Pro. Et chose extraordinaire, c'est que ce logiciel est en version de démonstration. Inutile de dire que pour que celui-ci fonctionne, eh bien, il faut au préalable installer au moins une librairie de son de Vienna Symphonique. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'écouter la puissance de ce logiciel. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour avoir suivi cette série consacrée à la découverte de Vienna Symphonique. Un grand merci également à Edencast.fr qui m'a permis de réaliser en toute liberté cette série. N'hésitez pas également à me laisser toutes vos remarques, vos réflexions, vos suggestions sur cette série, sur cet épisode. Et puis, pour tout ce qui est question accessibilité, vous pouvez également me faire part de vos remarques. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur Edencast.fr.
Cet épisode vous a été proposé par Edencast. Pour plus d'informations ou laisser un commentaire, veuillez consulter notre site web.